Vous écoutez France Musique.
Léonard de Vinci a dit de la guerre qu'elle est la plus bestiale de toutes les bêtises.
14-18, petite musique d'une grande guerre. Aujourd'hui, dans 14-18, petite musique d'une grande guerre, Cynthia Dubois évoque le sort de la musique et des musiciens allemands en Amérique du Nord, le rapprochement du Canada et de la France et l'installation d'une école Cortot à Montréal par Yvonne Hubert en 1929, école qui formera plusieurs générations de pianistes canadiens, parmi lesquels Marc-André Hamelin, Louis Lorty ou encore André Laplante.
En arrivant à Paris, le 4 juillet 1917, le capitaine Stanton de l'état-major du corps expéditionnaire américain déclara, sur la tombe du héros des deux mondes, « Lafayette, nous sommes là ». Et pendant ce temps, près de 150 ans après sa participation à la guerre d'indépendance américaine, croyez-le ou non, Lafayette, par personne interposée, retournait aux États-Unis afin d'y émanciper la musique de l'influence allemande. Et vive la France!
A time in many a life when it's due to face it death, but our soldier boy will do their part that people can live in a world where all will have the same. Their conscience always of their country's aim, which is liberty for all. Hip hip hooray, you'll hear them say as they go to the fight and pray for it.
Thank you.
Ives, profondément pacifiste, qui avait toujours défendu avec passion la liberté et la démocratie. C'est précisément au nom de ces principes fondateurs que les États-Unis vont sortir de leur neutralité et déclarer officiellement la guerre à l'Empire allemand. L'Angleterre et surtout la France représentaient pour les Américains la liberté, par opposition aux monarchies autoritaires des empires centraux. Et allait se répandre avec une rapidité fulgurante la peur, voire la haine de l'autre, en l'occurrence de l'importante et prospère communauté allemande installée aux États-Unis. Jusqu'alors, malgré des différends entre les deux pays apparus dès la fin du XIXe siècle, les États-Unis étaient demeurés profondément germanophiles dans le domaine de la philosophie, de la littérature et de la musique. C'était donc en Allemagne et non en Angleterre, en France ou en Italie que les jeunes Américains choisissaient d'aller parfaire leurs études. Ainsi, Charles Griffiths, qui étudia pendant 4 ans avec Engelbert Humperdinck à Berlin. Meeres Stille de Charles Griffiths, avec le baryton Thomas Hampson toujours, accompagné cette fois-ci au piano par Armen Guzelimian. Griffiths se laissera séduire par les impressionnistes, mais à son retour d'Allemagne, il souffre beaucoup de l'entrée en guerre des États-Unis et du sentiment germanophobe qui va souffler sur le pays et l'isoler de ses amis allemands.
Once more, please.
En ces temps de guerre, les Austro-Hongrois qui vivaient aux États-Unis étaient surveillés et menacés de discrimination, mais les Allemands l'étaient encore plus, car la propagande rendait leur pays responsable du conflit. Les mots allemands, les noms de rue, termes culinaires, étaient supprimés du vocabulaire. Le répertoire musical allemand fut banni dans plusieurs villes et quiconque était d'origine allemande devenait suspect et pouvait être accusé par le premier venu d'activités anti-américaines. Or, plusieurs orchestres, privilégiant depuis leur fondation les chefs allemands, nombreux étaient les musiciens d'origine allemande sur le sol américain. Et plusieurs d'entre eux, malgré leur attachement à leur pays d'adoption, furent victimes de leurs origines. À titre d'exemple, Karl Muck, chef de l'Orchestre symphonique de Boston, citoyen suisse, né en Bavière, il avait été très respecté et admiré par le public jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis. Dès 1917, on commença à critiquer l'attachement de Mouk à l'Allemagne et à ses compositeurs. Bientôt, son sort se joua sur l'hymne national « La bannière étoilée » que plusieurs orchestres inscrivaient au programme depuis l'entrée en guerre des États-Unis. Mais, et le fondateur et le gérant de l'orchestre, sans consulter Mouk, s'y refusèrent pour de soi-disant raisons d'indépendance artistique. Ils reçurent même deux quasi-mises en demeure, mais n'en avisèrent pas leur chef et ne prirent pas la peine d'y répondre. Lorsque Mouk eut vent de ses requêtes, il affirma qu'il ne voyait aucun inconvénient à jouer cet hymne si ses hôtes le réclamaient. Mais la presse n'en sut rien et se déchaîna en l'accusant de trahison. Il eut beau jouer l'hymne à plusieurs reprises, il sera arrêté pour des raisons inconnues et interné jusqu'en 1919. Mais c'est alors que commença pour l'Orchestre symphonique de Boston sa période française, avec Henri Rabaud d'abord, qui ne demeura en poste qu'un an, puis avec Pierre Monteux. J'ai parlé de la période française de l'Orchestre symphonique de Boston, mais j'aurais pu parler de la période française des États-Unis en matière musicale, à la faveur des efforts qui seront déployés pendant la guerre par le pianiste Alfred Cortot. Dès le début du conflit, Cortot suspend sa carrière personnelle pour se consacrer à diverses activités administratives et politiques. Il crée de nombreuses entreprises de spectacle afin de soutenir le moral des combattants et des civils et pour maintenir l'unité nationale. Par ailleurs, on va lui confier la mission de mettre sur pied un service de propagande extérieure au sein de la Direction générale des Beaux-Arts. Ce qui marque le début de l'action artistique française à l'étranger dans tous les domaines, mais plus particulièrement en musique. Création de saisons françaises dans les pays neutres et aussi volonté de créer une école de musique qui accueillerait des élèves étrangers à Paris. Cela dans le but de faire échec au germanisme musical. Cette volonté aboutira après la guerre à la création de l'École normale de musique et Cortot nommera également des mandataires qui proposeront des artistes français aux directeurs de salles à l'étranger. La vie musicale américaine étant à l'époque dominée par l'influence allemande, les États-Unis vont devenir la cible principale de la propagande française avant et après leur entrée en guerre. Grâce à l'appui de mécènes, Cortot va y organiser de nombreuses manifestations musicales. Et c'est ainsi que, dès 1916, il fait libérer Monteux de ses obligations militaires afin que celui-ci dirige la fameuse tournée des ballets russes. Et, une fois embauché au Met puis à Boston, Monteux aura pour mission d'introduire la musique française dans les programmes. C'est un peu comme si Lafayette revenait aux États-Unis. C'était Sirène de Debussy, avec les chœurs et l'orchestre symphonique de Boston, sous la direction de Pierre Monteux, un enregistrement qui remonte aux années 50. Qui dit États-Unis dit Canada. Et à partir de 1920, Alfred Cortot se produira souvent à Montréal, entre autres en 1929 pour l'inauguration de l'école Alfred Cortot, fondée par son élève Yvonne Hubert. Cette école ne survivra pas, mais la grande tradition pianistique française et la méthode de Cortot, si, car Yvonne Hubert va demeurer à Montréal et elle enseignera au Conservatoire de musique lorsqu'il sera créé sur le modèle du Conservatoire de Paris, ainsi qu'à l'école de musique Vincent Dindy à Montréal. Et elle formera de nombreux et excellents pianistes.
Thank you.
De Liszt, tiré des années de pèlerinage, nous avons écouté La Vallée d'Obermann, jouée par Louis Lortie, l'un de ces nombreux pianistes qu'Yvonne Hubert, elle-même élève de Cortot, a formé.
C'était 14-18, Petite musique d'une grande guerre, une émission proposée aujourd'hui par Cynthia Dubois, en coproduction avec les radios francophones publiques, réalisée par Cynthia Dubois, Patrick Lérisset et Benjamin Vignal.